On en jase, son émission du midi sur Boulevard 102 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Il est présentement midi 1 minute. On est avec vous jusqu'à 14h. Par la suite, c'est le retour de Gravel avec Denis, Véro et Audrey qui va prendre place. Un Marceau le soir à 18h. Et on repart la roue avec un Marceau le matin à 6h. Ce sera moi et Max Larouche demain parce que Pascal Cévette est en congé, hein?
Oui, c'est ma petite dernière, alors.
Ben oui, petite dernière de la semaine. Parle-moi de ça.
Petite dernière de la semaine, ensuite on revient dans une semaine.
Exactement. Donc, très hâte de refaire de la radio avec toi. Je te souhaite un bon congé.
Ben merci, t'es très gentil.
Oui, demain matin, ce sera un duo Jeff Fortin, Max Larouche. Puis demain midi, si le monde se demande qui va remplacer Pascal Cévette, c'est un animateur que j'aime beaucoup, que vous entendez quelques fois sur les ondes de Boulevard 101, c'est Nathan Meyer.
Vous allez avoir avec moi. Énormément de fun. C'est un show familial.
Duo familial.
C'est un duo familial.
Nate est marié avec ma cousine Sarah, que je salue, qui travaille très fort dans le domaine médical, en travail social. Donc, bravo Sarah d'être une missionnaire du système de la santé. Et ça va me faire un énorme plaisir de travailler avec Nate demain et de parler politique. On va avoir aussi à 1h, là, on va parler entre hommes, là, 1h, on va se faire du sport avec Alex Laramie. Parce que ce sera un gros week-end de football. C'est le premier week-end des séries dans la NFL. Et également, bien, le Canadien joue ce soir contre les Panthers de la Floride. Parlant de sport, Pascal, ça n'arrête pas les congédiements d'entraîneurs dans la NFL. C'est Mike McDaniels, l'entraîneur-chef des Dolphins de Miami, qui a perdu son emploi aujourd'hui. Dehors McDaniels, il est congédié. J'ai l'impression que c'est la course à John Harbaugh.
Je peux pas t'aider.
T'es l'ancien entraîneur des Ravens de Baltimore qu'on a parlé hier. 18 ans à la barre des Ravens, congédié. Ça a été quand même une surprise. Là, j'ai l'impression qu'il y a une couple d'organisations qui disent « Ah, regardons ça. Oui. Il est disponible, ce gars-là. Pourrait peut-être congédier mon coach et essayer de l'embaucher. » Et il y a une très, très, très grosse rumeur également que Mike Tomlin, l'entraîneur principal des Steelers de Pittsburgh depuis 19 ans, qui n'a jamais eu de saison perdante, aurait dit à l'organisation des Steelers, c'est ma dernière saison avec vous, je démissionne lorsqu'on sera éliminé des séries.
Donc, retraite pour lui. Là.
Non, il voudrait tout simplement changer d'organisation.
Il ferait pour vrai?
Oui, il voudrait changer le vent, changer le mood, changer d'air.
T'as l'impression que tout fait ou encore, tu y as-tu du...
Exactement, ouais, ben. Puis ça, il y a eu des critiques envers Mike Tomlin dans les dernières années parce que oui, les Steelers ont une fiche gagnante, mais franchissent jamais la première ronde des éliminatoires. Alors, il y a une grosse rumeur que Mike Tomlin partira aussi des Steelers. Hey, si John Harbaugh et Mike Tomlin partent, imagine, ça fait 18 ans John Harbaugh, ça fait 19 ans Mike Tomlin. Ils jouent dans la même division, donc ils jouent un contre l'autre deux fois par année. Le portrait de la division Nord de la conférence américaine va changer de façon catégorique. C'est excitant. Kevin Stefanski aussi, qui est l'entraîneur des Browns de Cleveland dans la même division, a été congédié. Fait que t'imagines, trois nouveaux coachs en division. Hey, c'est-tu le fun, le football?
Et pendant ce temps, si on est dans le sport, ce qui se jase au niveau du hockey, c'est que si on veut expliquer pourquoi les Islanders de New York sont bons et ont une saison impressionnante, ce serait par, l'impressionnante tenue de la recrue Matthew Schaffer, c'est ça qu'on
en plein
dit?
Ça, tu le prononces très bien, bravo Pascal.
Et les gestes posés pendant l'été par le directeur général Mathieu Darche.
Ouais, Mathieu Darche, c'est un Québécois.
Bon, lui
qui a fait ses études à l'Université McGill.
Mais c'est pas tout. On a parlé de notre Patrick Roy.
Exactement.
Actualité. C'est le New York Post qui a dit aujourd'hui, sur une note personnelle, Roy semble avoir tiré les bonnes leçons de la dernière saison en travaillant dur sur son style de communication qui risquait non seulement d'aliéner les joueurs l'an dernier, mais qui a aussi incité Anthony Duclair à tirer une croix sur sa campagne prématurément.
Patrick s'est calmé, Pascal.
Patrick a respiré par les deux trous.
C'est aussi simple que ça.
Sous-estimé dans le visage. Ouais. Ça s'appelle les narines.
Les narines. Patrick a respiré. Patrick s'est calmé. Patrick est maintenant rendu un entraîneur qui protège ses joueurs. Et résultat, les Islanders de New York sont deuxièmes de la division métropolitaine.
Parce que rappelle-toi, il s'était fâché contre Duclair. Là.
Ouais,
il avait eu une défaite contre le Lightning de Tampa Bay. Puis il avait dit « mauvais, vraiment mauvais ».
Ouais, exactement. Puis Duclair avait dit « ah ouais, mais je m'en retourne chez nous ». Puis Patrick Roy s'est excusé durant la période estivale.
Ça, c'est spécial, par contre, de voir ça entre un coach et son joueur.
Ben oui, très spécial.
Les deux, plein d'égo, plein de sensibilité sportive. Tiens. Mais l'atmosphère serait plus légère. Soit il a appris, soit ça va pas durer. Mais chose certaine, on n'a pas d'âge pour s'améliorer.
Non.
Ça sera la leçon du jour.
Très belle leçon du jour, j'adore. Pascal, on va parler à Christian Daigle, président de la fonction publique québécoise, syndicat de la fonction publique québécoise, sur ce retour au travail, en présentiel, trois jours par semaine aux alentours de 12h30. On a Victor Henriquez qui est au bout du Zoom. Mais en attendant, est-ce qu'il y a deux, trois manchettes qu'il faut retenir dans l'actualité?
Oui, je vais te parler d'un motocycliste de 69 ans qui est décédé ici à Québec, mais c'était en juillet. Pourquoi je t'en reparle là? C'est qu'on a appris des choses. Bon, sa moto était munie d'une fausse plaque et il n'avait pas de permis. Donc, quand il a vu les policiers vouloir l'intercepter, c'est peut-être pour ça qu'il les a fuis. Et c'est malheureusement ce qui a mené à son décès. Donc, durant les vacances de la construction, il a fait une sortie de route, il fuyait les policiers, puis ben, c'était pas une autorisation pour lui de rouler sur son engin, sur sa moto. Et ça, c'est dans le rapport du coroner qu'on peut lire ça aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, Denis Boily, 69 ans, il était sur l'autoroute Félix-Leclerc. Il a fait une embardée mortelle près du viaduc d'autoroute Robert Bourassa. Alors, c'est malheureusement comme ça qu'on peut conclure l'enquête sur son décès. Loin d'être beau.
Exactement.
Absolument tragique.
Oui, on offre nos sympathies à la famille, évidemment.
Je te refais un petit clin d'œil sur ce meurtre au Mexique. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un trafiquant québécois qui a été tué de deux tirs dans la tête et il y a une enquête en ce moment. On a eu besoin de tous les corps policiers. On en a même fait voyager certains pour comprendre ce qui se passe dans... Bon, bien sûr, tout le trafic de stupéfiants. Mais là, il faut savoir, tu sais, c'est pas juste ici au Québec, c'est pas juste à Montréal, c'est pas mal rendu dans la province. Et c'en était un trafiquant de drogue québécois qui était bien connu du milieu policier dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est lui qui a été assassiné quand il sortait du gym du côté du Mexique. Mm-hmm. Il s'appelle Jonathan Bouchard, abattu en pleine rue dans un quartier de Puerto Vallarta. Il avait 32 ans. Donc, ça brasse et c'est pas peu dire. Et le journaliste Adrián de los Santos, c'est dans un média local, qui a annoncé cette mort-là, puis ce fait divers-là. Mais le déploiement rapide des services de secours n'ont pas permis de faire en sorte que Jonathan Bouchard s'en sorte. Là, c'est absolument violent ce que je suis en train de vous dire. Pas de suspect qui a été appréhendé pour le moment, mais comme je vous disais, on est en train de faire des liens entre tout ce qui se passait avec Jonathan Bouchard et ses activités criminelles. Entre autres, c'en est un qui avait été condamné à 40 mois de prison en 2019 après l'opération Palme. Ça avait mené à arrêter cet homme-là, sa mère, son frère, trois autres complices et il avait été reconnu coupable de trafic de substances, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic de possession et de distribution de cannabis aussi. Donc, loin d'avoir un beau CV pour présenter une belle mère.
Exactement, un homme très connu des milieux policiers.
Sinon, on est passé de 3 000 à 15 000 $. Ça, c'est la hausse des besoins alimentaires ici, au Cégep Garneau.
Ouais.
On a glissé un
très
mot.
Très triste.
Donc, ça suit un peu la tangente que toutes les banques alimentaires, les offres de services alimentaires pour les gens qui sont en précarité alimentaire sont en hausse de demande. C'est un peu partout où on voit la problématique devenir plus importante. Je te parlais d'Ozempic un peu plus tôt ce matin. On est encore là-dedans parce que le brevet d'Ozempic est à expiration. Alors, ça sera la guerre des prix qui va être lancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle ère. Novo Nordisk avait le brevet sur la sémaglutide. Et c'est une molécule qui est à base du médicament Ozempic. Mais là, ça touche à sa fin. Ça veut dire que ça protégeait l'ingrédient actif qu'il composait. Maintenant, d'autres entreprises peuvent mettre la main là-dessus puis commencer à faire leur générique ou leur médicament qui va ressembler à celui d'Ozempic. Santé Canada confirme qu'elle a déjà eu 9 demandes d'homologation en ce moment. Alors, on est en train de regarder comment ça va se jouer sur le terrain. Mais bien sûr, les affaires sont les affaires. On contre-attaque. Mais on va faire de l'argent là-dessus. Et ça sera pas chose terminée.
Non, ça sera à suivre comme dossier, évidemment. Il y a eu une bonne entrevue de Maxime Larouche avec Jean-Philippe, notre pharmacien, qui nous parle régulièrement ici à Boulevard 101. Ça va être disponible sur le blvd.fm dans les meilleurs moments. On passe au caucus avec Victor Henriquez.
Le caucus. Boulevard. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
C'est le caucus avec Victor Henriquez en l'absence d'Antonine Iaccarini. Victor, mon ami, comment vas-tu?
Ça va très bien, Jeff. Bonjour à vous deux.
Salut. Bonjour. Victor, ça brasse au Minnesota. Petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas la situation. C'est une femme de 37 ans, une Américaine de souche qui a été tuée par la police de l'immigration. Elle a été abattue hier. Sur les vidéos qu'on voit avec ce que Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, nous a expliqué ce matin, il n'y aurait pas eu lieu d'ouvrir le feu sur cette résidente qui tentait tout simplement de s'en aller d'un endroit où la police de l'immigration intervenait. Et là, bien, il y a des manifestations, il y a eu des arrestations aujourd'hui. Est-ce qu'on s'en va vers une situation explosive, comme on a vu il y a de cela quelques années, Victor, au Minnesota, lorsque George Floyd, ce résident des États-Unis, ce résident immigrant, avait été tué par les policiers?
C'est important ce que tu rappelles, la situation de George Floyd, parce qu'on est devant une situation qui se passe dans une poudrière qui a déjà vu des émeutes, qui a déjà vu la population se lever et être outrée d'une situation. Et ici, ce qu'on voit, c'est absolument catastrophique. C'est un drame immense. C'est une dame qui semble avoir paniqué, honnêtement, au volant de son véhicule. Moi, j'ai vu le vidéo. Semble avoir paniqué avec l'intervention des agents de ICE. Et là, trois coups de feu ont été tirés. Il semblerait qu'elle a été tirée au visage et décédée de ses blessures. Et on en vient. Ce qui est compliqué ici, c'est qu'on est habitué dans les pays comme les États-Unis, à ce que les forces de l'ordre ne s'attaquent pas comme ça à leurs résidents. Et ça frappe énormément les Américains en ce moment. C'est de voir que ICE se retrouve avec des agents qui ont plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais eu, qui ne semblent pas savoir l'utiliser de la bonne façon. Il y a plus d'agents de ICE aux États-Unis, de cette police d'immigration, qu'il y a dans n'importe quel autre corps policier en ce moment. Et donc, c'est un corps policier qui n'a pas nécessairement le même niveau de préparation, mais qui fait des interventions du même acabit, et on finit avec des drames comme celui d'hier. Je pense que ce qui est grave aussi pour Donald Trump, c'est que les Américains vont se lever non seulement à Minneapolis, mais ailleurs. Et en vue des élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre prochain, ça pourrait faire extrêmement mal, cette situation à Minneapolis, à Donald Trump, à son administration et à tous les élus républicains.
Je me demande si, puis j'aimerais ça avoir votre analyse, votre vision, les gars là-dedans. Tu sais, Victor, je veux dire, tu as fait de la politique en arrière du rideau, tiens, disons-le comme ça. Donald Trump, sa stratégie semble assez déterminée, soit de créer une certaine fractionnement entre sa population. Est-ce que ça peut être gagnant pour un leader de ce type ou finalement sa stratégie pourrait se revirer contre lui?
On a longtemps pensé que ce ne serait pas gagnant dans le cas de Donald Trump, mais moi, la dernière élection m'a laissé un peu surpris, hein, parce que cette stratégie de la division n'est pas nouvelle chez Donald Trump. Chez Donald Trump, on cherche à diviser entre ceux qui croient en la loi du plus fort puis ceux qui le décrit, lui, comme les woke. Hein. Il veut diviser les États-Unis en deux. Et d'ailleurs, ces divisions-là, on les voit dans les derniers heures sur les réseaux sociaux. Les réactions sont extrêmement variées. Je suis allé faire un peu de TikTok tantôt. C'est toujours trop long quand on fait du TikTok. Hein. Ça dépasse le temps qu'on s'était alloué. Mais il y avait des réactions tellement diverses. Là. C'était vraiment intéressant parce que tu vois la fracture. Cette fracture dont tu parles, parce qu'elle est hyper visible. Alors oui, ça a amené Donald Trump à une majorité intéressante lors de la dernière élection, mais ce n'est pas nécessairement des situations ou des divisions qui sont très durables, parce que la force des États-Unis, c'est sa tradition démocratique, c'est sa constitution, c'est le fait d'avoir un peuple qui croit dans les droits fondamentaux. Et lorsqu'on voit les Américains frapper ailleurs, ça dérange moins les Américains, mais quand ça frappe dans leur cour arrière, quand ça frappe à l'intérieur, ça devient beaucoup plus problématique. Et cette division-là, elle va finir par avoir ses limites. L'élastique, tu peux bien l'étirer, mais il va finir par briser. Et c'est ça qui risque de revenir dans la phase des Républicains à court, moyen ou long terme. On verra le temps que ça prendra. Mais la situation qu'on vit à Minneapolis, au Minnesota, elle est importante parce qu'elle montre aussi une fracture au niveau politique. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu le maire de Minneapolis.
Oui.
Qui a littéralement dit, et je ne répéterai pas les mots exacts, mais sortez de chez nous. Il a été extrêmement direct. Et de l'autre côté, on a la secrétaire d'État à la sécurité intérieure qui, elle, littéralement parle de terrorisme intérieur. Donc, vous voyez, même dans les déclarations, on est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et ça va finir par avoir des limites, j'en suis convaincu.
Victor, tu vas exactement sur le terrain que je voulais aller avec ma prochaine question. Oui, la division peut-être rapportée à Donald Trump lors de la dernière élection. Je sens que cette division-là s'effrite, puis je fais juste penser à Marjorie Taylor Greene qui a quitté les rangs du mouvement MAGA. Mais là, en parlant de terrorisme de l'intérieur, en sortant immédiatement pour dire c'est de la légitime défense, alors que sur la vidéo et pas mal la totalité des experts sont d'accord pour dire que ce n'est pas de la légitime défense. J'ai l'impression que là, on a franchi, puis ça va faire plusieurs fois le shot de Donald Trump, mais qu'on a franchi ce point de non-retour-là avec ses sorties rapides en parlant de terrorisme.
C'est l'impression qu'on a, cette espèce, moi j'appelle ça le paradis de la vérité alternative, hein, où est-ce que dans l'équipe de Donald Trump, on est convaincu que si on spin un message différent dès le début, on est capable de changer la perception du public. Et c'est pas complètement faux, ils y sont arrivés souvent, mais à ce moment-ci, ils se frappent à beaucoup d'experts et beaucoup d'autres intervenants qui disent le contraire. Alors à un moment donné, ils s'isolent aussi dans cette enflure verbale constante.
Et là, on a eu un extrait du communiqué du Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota. Dans les dernières minutes, ce qui est sorti, c'est que le département de la justice coupe l'accès de l'État au matériel d'enquête. Ça veut dire que le département de la justice et de la police fédérale, le FBI, ont décidé qu'il n'y a aucun matériel d'investigation au Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota qui va sortir. Les autorités de l'État devaient collaborer avec les autorités fédérales, mais on se retire de cette enquête-là là, qui entoure la mort de Renee Nicole Good. Et on est très clair, on va perdre l'accès aux pièces du dossier, aux preuves recueillies sur les lieux et aux interrogatoires nécessaires pour mener une enquête approfondie et indépendante. On dit que sans accès complet aux preuves, aux témoins, aux informations recueillies, on ne peut pas respecter les normes d'enquête exigées par la loi du Minnesota et le public.
Ouais. Mais Pascal, c'est tellement important ce que tu nous amènes parce que c'est ça la politisation de la justice. Pourquoi hier, la secrétaire d'État a parlé de terrorisme intérieur? Parce qu'à partir du moment où on parle de terrorisme intérieur, ça devient une enquête fédérale, ça ne peut pas être une enquête de l'État à ce moment-là. Le pouvoir du FBI est automatiquement augmenté à ce niveau-là et le FBI donc reprend tout ça. Il n'y aura pas d'enquête de la part des autorités du Minnesota, puis on va être capable de noyer ça au niveau fédéral. Alors, c'est tout ça qui se passe dans l'univers de Donald Trump. C'est que l'appareil fédéral s'outille aujourd'hui et prend des places qui habituellement appartiennent aux appareils de l'État. Vous savez, un des équilibres aux États-Unis, c'est que les États-Unis, un peu comme le Canada, c'est une fédération, mais contrairement au Canada, c'est une fédération hyper décentralisée. La force des Américains, c'est que les États ont énormément de pouvoir et le gouvernement fédéral en a très, très peu. Alors qu'au Canada, on est à peu près dans le contraire. Ce qui fait que ça marche aussi. Mais plus, avec Donald Trump, plus le temps passe, plus on voit l'État fédéral qui grossit, qui enfle, qui prend du pouvoir, qui intervient sur le terrain des États. Et ça va finir par déranger les Américains parce que c'est dans leur nature propre d'aimer le fait que ce soit décentralisé le pouvoir.
Mais c'est de
Et ça, moi, je
l'ingérence.
pense que
C'est de
c'est de
l'ingérence, je veux
l'ingérence.
pas. Il faut une indépendance dans ces choses-là pour être sûr d'avoir la vérité. On voit aussi de l'ingérence dans les médias. Là, on peut faire des corrélations. Donald Trump ramène le pouvoir et les décisions à lui et contrôle le message, non?
Moi, c'est là où je pense que ça risque d'imploser. C'est que justement, plus les gens vont voir cet interventionnisme du fédéral, plus les gens vont dire, ben, attendez une seconde, ça se peut-tu que ça me ressemble à ce qu'on fait d'habitude ou à ce que j'aime de mon pays? Et moi, c'est là où je pense que les démocrates devraient vraiment venir frapper sur le clou. Maintenant, il y a une chose, pour frapper sur le clou, ça te prend des porte-paroles qui ont la capacité de le faire. Et là, il y a un enjeu chez les démocrates, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui ressort dans la situation actuelle. Il n'y a pas de grand leader qui est en train de se démarquer. Il n'y a pas de voix qu'on entend plus souvent que des autres voix. Là, hier, on a entendu le maire de Minneapolis, mais j'ai de la misère à voir la voix nationale, celle qui ressort à travers les États-Unis, puis qui est en train de profiter de l'opportunité de cette crise chez les démocrates, ce que j'appelle la crise de leadership en ce moment des démocrates aux États-Unis. Et tant qu'il n'y a personne qui ressort, ben, ça rend un peu la vie plus facile à Donald Trump et à son équipe, parce que ça prend de l'opposition, hein, pour avoir ces grands débats-là. Les États-Unis ont de la misère à les avoir en ce moment.
Non, en effet, il y a eu un certain moment à l'automne où c'était Gavin Newsom lorsque la garde maritime avait débarqué en Californie, mais on dirait que ça s'est essoufflé. Il y a eu le Zoran Mamdani Show, que je vais appeler, qui est arrivé à New York, mais encore là, t'sais, c'est une ville, c'est pas un État, c'est pas quelque chose de plus grand au niveau de cette indépendance-là que tu parlais, que les Américains aiment beaucoup au sein de leur État même, là.
Ce sera à suivre, hein, mais je suis convaincu qu'en vue des demi-mandats, il y en a plusieurs qui vont s'essayer à devenir ce leader-là. Il y a une opportunité, hein. Pour un démocrate en ce moment qui a une certaine position de leadership et qui voudrait être candidat à la présidentielle, il y a un espace de jeu absolument unique. Et ça, là-dessus, ce sera intéressant de voir qui va le prendre, parce qu'en ce moment, il n'y a pas, à part Gavin Newsom qui semble avoir une petite longueur d'avance, il n'y a pas grand monde qui s'impose dans l'espace public.
Non, en effet. On se transporte au Venezuela, Victor, parce que hier on parlait de politiques qui ont changé entre de la politique relationnelle. Puis je pensais à ça hier soir, puis je me disais, Tous les gouvernements ont leur ministre des Relations internationales. Ça va devenir le ministre des Transactions internationales parce qu'on est maintenant rendu dans un mode transactionnel. Et on l'est plus que jamais parce que l'administration Trump est très satisfaite présentement du remplacement de Nicolas Maduro par Delcy Rodriguez parce que Mme Rodriguez est prête à transiger avec les États-Unis.
Je te le dis tout de suite, Jeff, c'est toi qui as sorti cette expression de politique transactionnelle. Je te le dis, je vais la réutiliser.
Ben, c'est parfait. Prends-les, mon ami.
Je t'en donnerai constamment la paternité, mais c'est tellement une belle image sur ce qui est en train de se passer au niveau politique international. Parce qu'il y a une chose qui m'a frappé aujourd'hui, c'est que j'ai écouté un peu les déclarations de Delcy Rodriguez sur les fameux millions de barils. Hein. Hier, Donald Trump a dit... les Vénézuéliens vont nous donner de 30 à 50 millions de barils qu'on va vendre au prix du marché... Il va valoir environ 2 milliards. Et comme président des États-Unis, je vais répartir l'argent entre le Venezuela et les Américains puis leur faire des belles choses avec ça. Et j'écoutais Delcy Rodriguez qui, dans le fond, essayait un peu de minimiser ça en disant « Oui, oui, c'est tout à fait normal qu'on fasse affaire avec les États-Unis. Ça n'empêche pas que nous sommes outrés de la capture de Maduro, mais nous faisons affaire. » Donc, ça vient un peu appuyer une certaine théorie qui apparaît de plus en plus. Le fils de Maduro a également fait un discours à l'Assemblée nationale vénézuélienne en disant que les traîtres du régime seraient connus à un moment donné. Et là, il y a une théorie qui pousse énormément sur le fait que, dans le fond, il y a des gens dans le régime chaviniste, le régime de Maduro, mais la dictature vénézuélienne qui ont collaboré avec la CIA et avec les Américains pour finaliser cette capture de Maduro. Parce que ça a toujours été un peu... une question qui est restée en suspens. Comment est-ce qu'on a fait pour faire une intervention aussi réussie, hein? Pour être capable de rentrer directement, d'aller le chercher dans un bunker, de savoir à quel point il était caché dans un bunker au palais présidentiel. La dernière fois que les Américains avaient fait ça, ça avait pris 27 jours. Puis dans cette fameuse-ci, on a l'impression que ça a pris 3 heures. Alors, je comprends que l'armée américaine s'est améliorée, mais à un moment donné, ça prend de la collaboration à l'interne. Et ce qu'on se rend compte, c'est que oui, il semble y avoir eu des négociations préliminaires assez poussées avec Mme Rodriguez notamment. Et ce sera à suivre, mais pour les gens comme moi, d'ailleurs, je l'assume, hein, qui avaient ces espoirs de démocratisation, ben, mettons que c'est un petit peu déprimant parce que si on a négocié avec le régime, ben, on a négocié de rester en place aussi.
On va être capable un jour d'avoir toute la vérité, pas rien que la vérité, parce que ça, je pense que non, mais toute la vérité, juste au niveau des morts, des blessés dans l'intervention. Donald Trump dit aucun de leur côté, on parlait d'une trentaine de blessés minimum, même des décès. Est-ce qu'on va être capable d'avoir la vérité ou on se dirige vers une vérification des faits pour l'avenir et dans les interventions militaires qui risquent d'être encore pires que certains moments dans l'histoire?
Dans beaucoup de situations, ça prend toujours du temps à avoir la vérification des faits, justement. Puis je pense que c'est un peu l'espèce d'opposition ou de contradiction qu'on vit avec notre époque. On a beaucoup d'informations, mais c'est long et c'est compliqué avant d'avoir la bonne information. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, on est surtout exposé à beaucoup de spin de la part des différentes parties. Donald Trump qui spinait, il n'y a jamais eu de blessé de notre côté parce que, dans le fond, c'était extraordinaire. Je pense qu'ils ont parlé de un blessé, puis on ne savait même pas c'était quoi la nature de la blessure. Hein. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a peut-être une centaine de morts. Donc, je continue à penser que la vérité finit toujours par se savoir, mais elle arrive après une période de spin médiatique, de manipulation de l'information ou de même de propagande, qui est celle qu'on vit en ce moment et qu'on vit à chaque fois qu'il y a un conflit, qu'il y a une guerre ou qu'il y a un conflit entre des pays, il y a toujours de la propagande d'abord. Et c'est d'abord la propagande qui prend le dessus de l'information, ensuite l'information finit par ressortir. Alors, on est dans cette période-là, c'est quand même très récent, hein? On se rappelle, c'était il y a 5 jours, cette intervention-là.
Oui, en effet.
J'ai l'impression que...
On dirait que ça fait un mois.
3 semaines. Ça fait un mois minimum. Alors, le temps est ralenti par tout ça, mais... Ce sera à suivre parce qu'il y aura beaucoup de petits déroulements comme ça qui vont nous donner des bribes d'informations puis des indices sur ce qui s'est vraiment passé et sur ce qui va se passer à l'avenir aussi. Ces régimes-là prennent du temps à se bouger aussi. Je vous donne un exemple, il y a un élément d'inconnu, c'est que parmi les gens qui sont inculpés, il y a le fils de Maduro qui est encore au Venezuela qui n'a pas été arrêté. Mm-hmm. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur qui est vu, M. Ceballos, comme un peu le cerveau de la révolution et de la dictature de Maduro et de la dictature chaviniste, lui non plus n'a pas été arrêté. Donc, est-ce qu'on a négocié de non-arrestation? Est-ce qu'on va le faire après? Est-ce qu'ils vont finir par se rendre aux autorités? Il y a plein d'éléments comme ça qui restent à venir. Ce sera une grosse année 2026 dans ce dossier-là, ou même juste un gros trimestre jusqu'au
Ah
mois de
oui,
mars.
ça a parti sur les chapeaux de roue samedi dernier avec cette capture de Nicolas Maduro. Ça m'amène à te parler de Cuba, Victor. Est-ce que Cuba est vraiment en danger de vie ou de mort à l'heure actuelle, ou quelqu'un va tenter justement de venir prendre la place que le Venezuela avait pour Cuba, c'est-à-dire subvenir à leurs besoins, notamment en pétrole?
Ça va être extrêmement compliqué pour Cuba. C'est sûr qu'il risque d'y avoir d'autres pays qui vont tenter justement de créer une espèce de ligne. Hein. Puis je pense que au niveau des forces, que ce soit au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, qui sont ceux qui avaient le plus de bénéfices de justement maintenir le régime Maduro en place d'une certaine façon, on cherchera peut-être à appuyer le régime cubain. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que lorsqu'on regarde la politique de sécurité intérieure des Américains, lorsqu'on les entend parler du Venezuela ou du Groenland, c'est absolument impossible de penser que les Américains ne vont pas chercher à faire tomber le régime cubain, que ce soit par asphyxie ou que ce soit par
Terrible.
interventionnisme.
Terrible.
C'est inévitable. À un moment donné, ce régime-là doit tomber si les Américains veulent le respecter et Donald Trump veut respecter ce qu'il dit lui-même en ce moment. Tu peux pas dire que c'est important d'intervenir au Venezuela si tu n'interviens pas à 90 km de ta frontière.
Ouais, à quel prix cependant, Victor? T'sais, parce que j'entendais Pascal dire c'est terrible, puis en effet, t'sais, est-ce que ça va être un prix comme la bande de Gaza où il y aura énormément de gens qui vont décéder, qui vont être en famine? T'sais, quel prix les
Parce
Américains
que...
sont prêts à faire payer à la population, là, aux
Tu sais,
civils?
il en manque déjà tellement de ressources, c'est tellement difficile pour le peuple. Quand t'es touriste, t'en manques. Imaginez le peuple. Est-ce que si on les laisse aller à l'agonie, si on, dans tous les sens du terme, dans ce cas-ci, ça va être terrible.
Arrêtez, je pense pas qu'on va laisser aller à l'agonie. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de les laisser aller à la rébellion. Puis
OK.
là-dessus, revenons dans nos cours d'histoire. Hein. La
Mais
révolution cubaine, elle est
oui.
partie de où? La révolution cubaine, elle est partie d'un régime Batista qui est un régime pro-américain dont le peuple s'est tanné, dont le peuple s'est fatigué. Oui, Castro est arrivé avec le Che Guevara aux frontières de Cuba, mais il y avait toute une révolution intérieure également. Il y
Danse
avait vraiment.
lascive 2, Havana Nights, pour ça.
J'ai exactement ce film-là en tête, Pascal, parce
Arrête!
qu'on voit, je te jure, on voit le soir du 31 décembre, quand arrive cette révolution cubaine, on voit les gens dans la rue, c'est une super belle image. Et je pensais exactement à ça. Mon Dieu, t'étais dans ma tête, Pascal, parce que c'est ce qu'on va chercher à faire chez les Américains. Ou pour ceux qui aiment les films plus récents, allez regarder Bad Boys quand ils interviennent à Cuba également. Il y a à Cuba, financé notamment par les Cubains à l'extérieur et ceux de la Floride, il y a des milices à Cuba, des milices de résistance. Il y a des poches de résistance à Cuba qui existent aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est à travers ces poches-là qu'on va chercher à intervenir du côté des Américains. Notamment à cause de la présence des Cubains en Floride. Vous savez, la communauté cubaine en Floride, elle est extrêmement importante, extrêmement influente. Et pour les Cubains de la Floride, ils veulent également que ça passe par les Cubains. Et ça, dans le cas de Cuba, c'est un peu la différence avec les Vénézuéliens. On n'a pas nécessairement cette relation historique, alors que la relation des Cubains de la Floride avec leur pays est extrêmement forte. Et le but de ces Cubains-là n'est pas nécessairement que le régime tombe seulement, mais c'est que Cuba retombe entre les mains des Cubains. Alors, il faudra voir est-ce que ça, on va financer, comment est-ce qu'on va nourrir la rébellion du peuple cubain, si elle arrive. Et si elle n'arrive pas, jusque où on va patienter du côté de Donald Trump? C'est ça qui est en ligne de compte, mais je pense que là-dessus, cette année nous donnera beaucoup d'indicatifs. J'écoutais les gens parler de est-ce que c'est une bonne idée de partir en voyage à Cuba en ce moment ou pas? Ben moi, je vous dirais qu'en ce moment, j'irai pas à Cuba. Hein, parce
Non,
que,
ouais.
non, parce que lorsque le peuple va se rébeller, c'est quelque chose qui est très dur à ressentir pour des touristes, ces espèces de rébellions qui viennent de la population. Alors, pour les gens qui y vont souvent, qui connaissent la population, peut-être c'est plus safe. Mais pour les autres, je vous dirais qu'il y a d'autres îles qui sont très belles à explorer en ce moment.
Victor, en terminant et rapidement, parce qu'on a le président du syndicat de la fonction publique du Québec, Christian Daigue, au bout du fil. Charles Milliard s'est excusé finalement de ces images d'Allemagne pour représenter le Québec. C'est un faux pas dès le départ, par contre.
C'est un faux pas en partant, mais c'est un drapeau rouge à tous les partis politiques. Vous savez, la technologie, elle permet de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus
Mais
simplement.
on avait dit ça
Et
à
la
sa maman et
protection
son
contre les...
équipe. C'est sa maman et son équipe qui étaient supposées avoir levé le drapeau rouge.
Ben oui, mais ça, c'est... Clairement, il y a quelqu'un qui a pas reçu le mémo.
Ou c'est le même
C'est
employé?
compliqué. C'est le même employé. Mais ultimement, la rigueur, c'est la meilleure
protection. Bénévole, là-dessus. Bénévole, Pascal. Oui, c'est des pas. Bénévoles avec sa mamade.
La rigueur.
Dans ce cas-ci, bravo à Charles Millard qui a pris l'entière responsabilité personnellement. Il a dit, c'est beau, je prends la responsabilité. On va faire attention, on va être plus vigilant. On n'en reparlera pas demain, mais attention à tous les partis. Il y a une élection qui s'en vient. Faites donc vos vidéos avec des fournisseurs au Québec, ça va être plus simple.
Exactement. Faisons fleurir notre économie, faisons fleurir notre milieu culturel, puis arrêtons d'utiliser cette intelligence artificielle-là.
Ou utilisons-la avec l'intelligence humaine en même temps. Ça va peut-être aider à éviter les erreurs.
J'adore. Victor Henriquez, j'ai pas le choix avant de te laisser partir, de te remercier pour les deux semaines
Merci
en remplacement d'Antonine
tout.
Iacarini. C'est un bonheur et un plaisir de te parler, mon ami. Et mardi prochain, Antonine, c'est un retour progressif. Elle revient lundi, mais pas là mardi. Fait qu'on va avoir la chance de s'en parler.
Ben, merci énormément pour le privilège que vous m'avez offert, pour les auditeurs aussi qui m'ont écrit, pour ceux qui nous écoutent, merci pour ce privilège énorme de vous parler tous les jours. Et moi, je suis très heureux d'être le backup à Antonine, donc si elle peut pas être là mardi,
Excellent.
Je vous retrouve mardi prochain avec plaisir.
Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Dans ce cas-ci même, c'est un à bientôt, Victor.
À bientôt, merci.
Salut, Victor. La seule chose que j'ai retenue, Pascal, et Victor, pas de débat sur la souveraineté de Victor et Antonine si on veut garder l'amitié.
Exactement.
Moi, j'ai retenu ça dans les deux semaines. Salut, Victor.
Bye, bye.
Salut.